Bonjour à toutes et tous. Je pense que c'est bon, vous m'entendez correctement. C'est une joie d'être parmi vous. La première fois que nous avons visité, c'est il y a à peine un peu moins de 20 ans. Ça devait être en février 2006. Qui c'est qui était là en février 2006 ? Il y en a quelques-uns, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux. Alors nous étions venus à 5. Notre dernier ici n'était pas encore né. Voilà, ma famille, notre famille avec Lise, mon épouse qui m'a accompagné, et puis nos quatre garçons, Vivien, notre aîné, marié avec Camille depuis 2 ans et demi, Cyriaque, notre second avec son épouse Alexandra, qui sont mariés depuis 2021, Simon avec sa fiancée Emma qui se marie l'année prochaine, et puis notre nerdier Nathan. Reconnaissant de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, alors je vais faire avancer un petit peu, pour partager ce que le Seigneur m'a permis de vivre au long de ces 20 dernières années, engagées avec la CIM. La CIM, donc, c'est une mission protestante évangélique qui œuvre depuis 1893 grâce à l'engagement de ses 3 frères. J'ai mis leur âge. Vous voyez leur âge, 20 ans, 23 ans et 26 ans, qui ont eu à cœur de partager l'amour de Dieu. L'amour de Dieu où ? À l'intérieur du Soudan. Alors, ce n'est pas le Soudan actuel. Hein. Le Soudan de l'époque, la région du Soudan de l'époque, c'était toute la partie du nord du Nigeria, qui allait au Tchad, etc. Et leur désir était de partager l'amour de Dieu à l'intérieur de ce Soudan, en tout cas à l'intérieur des côtes, puisqu'à l'époque, les missions travaillaient sur les côtes de l'Afrique et n'allaient pas à l'intérieur parce que c'était trop dangereux. Et ces frères ont été poussés par Dieu à servir à l'intérieur de ce pays. 2 d'entre eux sont morts quelques mois après leur arrivée, et le troisième, donc Roland Bingham, poussé par sa maman, mais aussi par l'Esprit-Saint, a poursuivi. Et aujourd'hui, Dieu permet que cette organisation puisse servir dans plus de 70 pays officiellement, avec plus de 4000 ouvriers. Voilà, on a rejoint cette équipe, Dieu nous ayant convaincus de le servir d'une manière différente. Voilà, Lise, mon épouse, est infirmière, je suis ingénieur de formation, et il nous a convaincus de le servir de façon différente, pas en partant, mais en envoyant. Et donc, c'est ce ministère que nous avons accompli dont j'aimerais un peu donner quelques nouvelles. Le cœur de ces frères reste le même aujourd'hui pour nous, et j'espère que c'est aussi le même pour vous. Il y a eu un chant qu'on a chanté là qui m'a interpellé là. Forme ton amour dans nos cœurs, et je ne sais pas si on a réalisé réellement les paroles derrière, et de chacun de nous dispose. En tout cas, c'est ce que nos frères ont vécu. Ils avaient un fardeau pour les perdus, pour ceux qui vivent et meurent sans espérance. Leur amour, l'amour que Dieu avait déversé dans leur cœur, était plus fort et plus grand que pouvait compter leur vie. Je rappelle que 2 d'entre eux sont morts quelques mois après avoir commencé, un échec a priori au point de vue humain. Ils ont eu une foi qui surmontait la peur de l'époque, c'était de faire face aux maladies, de faire face à peut-être à d'autres dangers. Vous connaissez aujourd'hui par les médias tous les dangers qu'il peut y avoir dans des pays reculés, avec en particulier l'aveuglement que l'ennemi place dans le cœur de ceux qui disent agir au nom de Dieu et qui tuent au nom de Dieu. Et ils avaient un focus. Ils étaient concentrés sur la perspective éternelle. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons ce focus ? Ou est-ce que nous voulons envoyer en enfer des gens en bonne santé ? C'est aussi une question, quand on parle aussi de partager l'amour de Dieu. C'est partager l'amour de Dieu, c'est bien de le vivre ensemble. Il doit se traduire ailleurs, ça doit porter des fruits. La conviction que l'on a en tant qu'organisation, c'est que nul ne devrait vivre ni mourir sans jamais avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et notre désir est de le faire connaître parmi les peuples où il est le moins connu. Ce passage de Romains qui dit, et je le citerai après, « Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils si personne ne les envoie ?» Il y a des portes ouvertes et Dieu fait des belles choses. L'année dernière, je pense que vous avez tous été interpellés par le cyclone qui s'est passé à Mayotte. Ça a ravagé le nord de cette île. Le nord de cette île est construit, en tout cas, à une population de Comoriens qui viennent se réfugier à Mayotte pour trouver un peu plus de facilité. Et ces bangas, ces favelas, hein, pour ceux qui connaissent un peu plus les favelas, ces bidonvilles, étaient inaccessibles à l'Évangile. Le cyclone a tout rasé. Pourquoi ? Parce que c'était des tôles avec des bouts de bois qui faisaient leur habitation. Tout a été rasé, mais l'Évangile, aujourd'hui, peut être proclamé dans ces lieux-là. Voilà ce que Dieu fait. Est-ce qu'on sait voir avec les yeux que Dieu nous donne ou est-ce qu'on sait voir avec les yeux humains ? Dieu ouvre des portes à Mayotte, mais pas que. Aujourd'hui, qui est soignant, qui a une formation Bac plus 2 peut être envoyé par l'État français pour aller à Mayotte, pour servir quelques mois, voire quelques années, et pourquoi pas les chrétiens, pour partager en plus l'amour de Dieu, payé par l'État français. Une porte ouverte. Les enfants. Les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car à de tels est le royaume des cieux. Les enfants, dans les pays défavorisés, sont bien souvent une monnaie d'échange. Et ils sont pour plusieurs, dans plusieurs pays, en particulier musulmans, ils sont vendus aux imams pour être des enfants talibés. Qui connaît les enfants talibés ? On a entendu parler des enfants talibés ? Bien peu. Ces enfants sont donc achetés par les imams, déracinés complètement de leur famille, principalement des garçons, et ils vont faire la quête pour les imams. Ils sont maltraités, bien souvent mal nourris, mal vêtus, battus. Battus parce qu'ils ne ramènent pas assez d'argent à l'imam. Et Dieu ouvre des portes, parce que les imams acceptent que les chrétiens puissent leur donner des soins, puissent leur partager des câlins, puissent leur partager un repas, puissent leur partager une douche. Et c'est une porte ouverte pour partager l'Évangile. Des musulmans. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais plus de 99% des musulmans n'ont pas un ami chrétien. Et comment on peut partager l'amour de Dieu, si ce n'est par l'amitié ? Aujourd'hui, on a des liens avec des pays, qui sont l'Afrique du Nord en particulier, où il y a bien peu de personnes qui ont envie d'aller. Dieu nous pousse à aller vers ces personnes-là. Parce que, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, si Dieu nous a saisis par son amour, cet amour nous étreint. Est-ce qu'il vous étreint, cet amour ? Cet amour pour aller le partager, parce que l'amour, quand il se partage, il ne perd pas de sa valeur. Au contraire, il grandit. Il y a des portes ouvertes parmi ces peuples pour s'engager. Le verset que vous avez mis pour votre moi, la moisson est grande et il y a bien peu d'ouvriers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il me semble que j'avais dit quand j'étais venu en février 2006 que dans l'œuvre de Dieu, le chômage n'existe pas. Il y a de la place pour tout le monde. Et à la suite de ce culte, Christophe s'était levé pour dire ben, « Moi, je ne sais pas, mais voilà, je suis disponible. » Et il est venu aider. Donc il y a différentes manières d'aider dans l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui ont aussi aidé de différentes manières. Et vous avez soutenu, vous nous avez soutenus. Un grand merci pour votre fidélité. On voulait ce matin vous dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait. On proclame l'Évangile, on veut proclamer l'Évangile, on veut répondre aux besoins parce qu'on peut pas dire simplement à ceux que l'on sert et à ceux que l'on va visiter, Dieu vous aime. Ce n'est pas possible de simplement dire en tant que mari à mon épouse, je t'aime ma chérie, et puis en me mettant dans le fauteuil et en attendant qu'elle me serve à boire ou à manger. Il faut que je prenne ma part. Et pour prendre ma part, ben c'est en action. Aimer, ce n'est pas seulement en parole, c'est en action et c'est en me donnant. L'amour est quelque chose qui se donne, autrement c'est de l'égoïsme. Et puis on travaille pour équiper l'Église. En 20 ans de service au sein de CIM, Dieu a permis que CIM France puisse envoyer dans ses plus de 51 pays plus de 700 ouvriers. Je vous laisse découvrir un peu les pays. Il y en a qui me parlent plus particulièrement, tant parce que c'était des personnes qui voulaient aller dans des pays où ça cognait, comme il me disait, ce jeune, j'ai envie d'aller dans un pays qui cogne, parce que j'ai envie que Dieu me parle. Il est allé au Soudan. Il est revenu transformé et Dieu avait travaillé en lui et au travers de lui. Aller dans des pays comme la Chine, où oui, il y a des possibilités de partager l'amour de Dieu. Des pays, d'autres pays comme une situation de conflit, Israël, des pays où, en tant que Français, aujourd'hui, on est rejeté, le Niger, le Burkina, le Mali. Voilà les différents pays où Dieu a poussé des ouvriers par son amour pour partager la bonne nouvelle. Quand on a commencé il y a 20 ans, il y avait juste un couple qui s'occupait de faire connaître l'œuvre et de pouvoir envoyer. Il y avait 11 missionnaires à long terme sur le terrain et environ deux courts termes. Aujourd'hui, il y a plus de 64 équipiers envoyés et accompagnés par CIM France. À l'époque, on était donc le directeur et moi-même à temps plein, mon épouse à mi-temps, en tant que bénévole. Aujourd'hui, c'est six personnes et demie avec un mi-temps à temps plein pour pouvoir accompagner. C'est facile de prendre un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde, mais comment on y va? Comment on se prépare? Comment on partage l'évangile dans une autre culture? Comment on soutient? Sachant que la mission n'est pas ce qui envoie, c'est l'Église qui envoie. C'est votre responsabilité en tant qu'Église. La mission est là pour aider, pour accompagner, pour transmettre, pour aussi donner gloire à Dieu de ce qu'il fait et des portes qu'il ouvre. Voilà ce que Dieu nous a permis de faire. Lise a été engagée en tant que bénévole pendant de nombreuses années, jusqu'en 2019, pour accompagner, accueillir et former les personnes, veiller, entretenir les locaux qui sont à Caderousse, que certains connaissent, dans le sud-est de la France, à côté d'Orange, et puis cheminer avec les envoyés. Cheminer avec eux, c'est partager un repas, c'est pleurer avec eux, plus souvent que parfois se réjouir des souffrances, des difficultés, se réjouir bien sûr aussi parce qu'il agit. Hein. Et puis pour ma part, c'est de poursuivre sur la partie accompagnement administratif et logistique de l'œuvre, veiller à la sécurité des ouvriers sur place, aider aux prises de décision. Hein, vous imaginez que de 11 personnes à accompagner à 60 et à plus de 60 à accompagner à des projets qui ont grandi, mais ça ne se fait pas simplement entre deux portes. Il y a besoin de répondre aux autorités de façon claire sur notre engagement. Et mardi, je pars sur Montbéliard pour avoir l'audit annuel avec le commissaire aux comptes pour qu'il vérifie que ce que l'on fait, c'est bien fait correctement. Voilà l'équipe qui est basée à Caderousse actuellement et qui sert tant pour la partie pratico-pratique, enregistrer les dons, payer les assurances, verser les indemnités, tout comme accompagner chacun des équipiers par un contact régulier avec eux pour leur savoir comment ils vont, comment ça se passe, quels sont leurs besoins, pour mobiliser dans les églises, pour faire connaître les besoins, pour être présent sur les rencontres évangéliques en France pour communiquer, avoir un site internet à jour et communiquer les nouvelles pour envoyer le journal. J'imagine que vous le recevez ou plusieurs le reçoivent, soit par mail, soit par de manière physique. Voilà un petit peu ce que représente l'œuvre de Dieu avec la cime. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Le rôle de l'Église, c'est d'envoyer. Et l'envoi, il se fait aussi au travers de ce bureau basé en France. Et dans les enjeux qu'il y a, c'est de pouvoir aussi arriver à pouvoir continuer à accompagner la croissance de l'œuvre de Dieu, de se projeter, de se fixer des objectifs. Dieu s'est fixé un objectif. Lequel est-il ? C'est de faire que toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation puisse un jour partager sa gloire. Et il a tout mis en œuvre pour cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il nous encourage, il nous invite, il nous engage aussi à pouvoir répondre à cet amour. Hein ? Et on ne peut pas le faire simplement en saisissant les opportunités, mais il veut aussi qu'on soit consacré. Et donc, oui, ça fait partie d'un des challenges de pouvoir être consacré à ce que l'on fait pour ne pas se disperser. On peut faire beaucoup de choses et puis finalement, parfois mal les faire ou de façon médiocre. Et on n'est pas Dieu à la place de Dieu. Hein ? Dieu lui-même a partagé son travail, si je puis dire. Dieu a créé. Jésus-Christ est venu sauver, le Saint-Esprit convainc, et ensemble, il veut se glorifier. Mais il veut qu'on travaille ensemble et vous encourager à continuer à être le soutien de celles et ceux que Dieu pousse à Moissy, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je veux vous remercier avec mon épouse, avec ma famille, de votre soutien, de vos prières. Merci au groupe de dames qui, tous les ans, envoient cette carte à l'occasion des vœux. Merci au contact des uns et des autres tout au long de ces années. C'est précieux de se sentir ainsi dans cette famille merveilleuse, soutenue. Merci aussi pour vos dons précieux qui me permettent de poursuivre à plein temps dans cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais lire ce matin avec vous trois passages. Le premier dans Colossiens, au chapitre 1er, du verset 15 au verset 20. Je ne vais pas être en mesure de le lire sur ma Bible, je vais prendre mon téléphone. Hop. Excusez-moi. Colossiens 1, verset 15 à 20. Le Fils, et il est question du Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il en est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Le deuxième passage, il est dans 2 Corinthiens, excusez-moi, au chapitre 5. Verset 14. c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je prendrai un troisième passage un peu plus tard. J'aimerais vous parler ce matin de l'infinie grandeur de son humilité. Vous pourrez me dire, c'est un peu un paradoxe. Et j'espère qu'à la fin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai découvert ce que je vais vous partager. J'ai tombé à genoux par l'infinie grandeur de son humilité. J'aimerais vous parler ce matin, et c'est quelque chose de scientifique, et où on voit comment Dieu aussi nous parle au travers des choses pratiques, d'une protéine de cohésion cellulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une protéine ? Alors c'est quoi ? Ça vient de quelle racine ? Là ? C'est en résumé la viande, oui, mais la racine dans protéine, il y a protos. Et protos, c'est à quelle racine ? C'est premier. Prototype, c'est la première chose qui est construite. Une protéine, c'est ce qui vient en premier. Là, j'aimerais vous parler d'une protéine qui sert à la cohésion cellulaire. C'est-à-dire que c'est une protéine qui sert à tenir les cellules entre elles. Vous en avez plusieurs millions, voire des milliards dans votre corps. Je ne sais pas de combien est constitué notre corps de cellules, j'ai oublié ça, je l'ai eu appris, mais je crois que c'est plus de millions. Mais chaque cellule est au moins liée à l'autre par au moins une de ces protéines. Elle m'a parlé, cette protéine, et j'espère qu'elle va vous parler aussi de cette même manière. Cette protéine, elle, comme je l'ai dit, elle est la première. C'est quelque chose qui est indispensable à la vie. Si vous n'avez pas cette protéine, excusez-moi, vous n'êtes pas avec nous. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans cette protéine. Vous êtes mort. C'est ce qui est indispensable à la vie. Tout le monde en a dans son corps. Et si je veux parler de cette protéine, c'est qu'elle m'a particulièrement interpellé. Parce que en elle, j'y vois le Christ, qui est l'alpha et l'oméga, celui qui, comme on l'a lu, a fait la paix, comment ? Par le sang qu'il a versé sur la croix. Et cette protéine, une protéine, c'est de la viande, oui, mais c'est porté par le sang, c'est nourri par le sang, et elle a cette qualité, et en tout cas, elle est vitale pour nos corps. On me dit, Léon, ça serait bien que tu partages un peu sur le côté spirituel des choses. Cette protéine, elle a comme nom l'aminime. Alors, elle est plus connue sous le nom de l'aminase, mais son nom scientifique, c'est l'aminime. Et elle m'interpelle, parce que cette protéine, comme je l'ai dit, elle sert à la cohésion des cellules. Et par son nom, elle indique qu'elle est la plus petite, ce qui est le minimum, ce qui est peut-être insignifiant, mais qui est pour autant tout aussi important. Cette protéine, elle s'accroche aux cellules par des petits crochets qui en français, dans le langage des médecins, s'appellent des intégrines. Comme si Dieu veillait aussi sur notre corps, même dans les dénominations de ce qui compose notre corps. Comme quoi la relation entre cette protéine et nos cellules ne peut se faire que dans la vérité, dans l'intégrité, dans une relation qui est basée sur la vérité, sur l'intégrité. Et elle apporte la vie. Dans ce que j'ai lu, j'ai lu que Jésus-Christ était le premier né de quoi ? Dans le passage de Colossiens, il est deux fois mentionné qu'il est le premier né. Vous avez vu de quoi ? De la création, et puis ? De la mort. Il est le premier né de la création, il est le premier né d'entre les morts. Jésus-Christ, il est celui, toujours dans ce passage, qui est dit qu'il a fait la paix par le sang de sa croix. Vous voulez que je vous montre quelle est cette protéine et quelle forme elle a ? Elle a la forme d'une croix. Aujourd'hui, si vous êtes en vie, c'est que vous avez cette protéine dans vos corps en nombre important, et c'est cette croix qui tient vos cellules entre elles. C'est cette croix qui est ce qui vous tient en vie. Et c'est par cette croix qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux, chers amis ? C'est un scientifique américain qui a découvert cela il y a quelques années, et il a voulu partager ça à un évangéliste. Et l'évangéliste était trop occupé et lui a dit attends, j'ai quelque chose d'important à te montrer parce que ça me touche et j'aimerais que tu m'en parles. Et au bout d'un certain moment, l'évangéliste a pris le temps avec lui et il est tombé à genoux quand il a vu ça. Vous tapez sur Internet, sur vos téléphones ou la minime, et vous allez avoir ces images de cette croix qui lie nos cellules entre elles. Il s'est abaissé plus bas que nous sommes. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Et dans le passage que j'ai lu, qui me frappe tellement Dieu dans sa prescience et dans ce qu'il a écrit et précis, il dit « Il est lui-même avant toute chose et toute chose subsiste par lui. » Aujourd'hui, si vous n'avez pas cette croix, cette laminime dans votre corps, vous n'êtes pas vivant. Mais bien au-delà, Christ veut que cette croix, au travers duquel il a fait la paix avec nous par le sang de sa croix, soit la vie qu'il nous donne, cette vie abondante, cette vie en lui. Et il a instauré cela en faisant la paix par le sang de sa croix. Et cette croix, mes chers amis, que vous le vouliez ou non, vous emportez des milliards dans votre corps. Et c'est ce qui vous tient en vie aujourd'hui. J'espère qu'elle vous tiendra en vie jusque dans l'éternité. Mais comme je l'ai lu tout à l'heure, si Dieu nous a aimés à ce point-là, et si au travers même de la science, il nous interpelle de cette manière-là, et j'espère que cela vous interpelle et vous touche, cet amour, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Et comme je l'ai lu dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul avait saisi que l'amour de Christ, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. C'est un trésor. C'est un trésor qui nous invite à partager. Non pas par contrainte, mais en réponse à son amour. Il souhaite que nous puissions prêcher qui ? Que Dieu est le Dieu des miracles ? Que Dieu est le Dieu de la vie ? Oui. Mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Crucifié pour nos péchés, crucifié pour que par son sang, nous puissions avoir la vie éternelle. Que à sa croix, et à sa croix seulement, nous puissions trouver la paix qui libère. Jésus-Christ, en réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, a fait de nous des dépositaires du message de sa grâce et du message, comme je l'ai lu, de la réconciliation. Si on reprend 2 Corinthiens, au chapitre 5, il a dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. » Des ambassadeurs de la réconciliation. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un ambassadeur et un préfet ? Le lieu où ils servent et la manière dont ils vont servir. Ils ont le même statut, le même grade en France. Sauf qu'un préfet va imposer des lois, des décrets, il va imposer l'ordre, il va imposer la force. Un ambassadeur, il est hors de son pays et il est là pour convaincre. Dieu nous appelle à être des ambassadeurs. Non pas de ceux qui vont imposer aux autres quelque chose qu'on ne peut pas vivre pour nous-mêmes, mais à être de ceux qui vont convaincre par la manière dont nous vivons et la manière dont nous parlons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et qu'il a fait la paix avec nous par le sang de sa croix et qu'il veut faire la paix avec tout le monde. C'est pourquoi Dieu a fait de nous, de chacun de nous, pas que des missionnaires, pas que des pasteurs, pas que des anciens, pas que des diacres. Il a fait de chacun de nous des ambassadeurs. Pas des ambassadeurs personnels, pas des ambassadeurs qui défendent leurs propres intérêts, des ambassadeurs au nom de Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour adresser aux hommes, par nous, par ces ambassadeurs, non seulement une invitation, je reprends 2 Corinthiens 5, verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel ou son invitation, pas simplement une invitation, mais une supplication. Une supplication à se réconcilier avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ a fait de nous des ambassadeurs de son amour, des ambassadeurs de sa réconciliation. Et il veut que, tout comme lui s'est abaissé lui-même, ce dernier passage de Philippiens, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Puissions-nous, chers amis, être des ambassadeurs de la réconciliation en le vivant entre nous. C'est parfois pas facile de vivre en famille, élargie. On peut avoir des avis différents. Et c'est pour ça qu'on est des ambassadeurs qui représentons et qui devons représenter Jésus-Christ. Non pas mes propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ. Focalisés sur la perspective éternelle, le fait de partager sa gloire. Et ainsi, oui, nous pourrons être ces ambassadeurs vrais de la réconciliation en la vivant entre nous et en invitant, voire en suppliant ceux de notre entourage à être réconciliés avec Dieu. Qui que nous soyons, nous sommes tous invités à être des ambassadeurs de la réconciliation. Puisse Jésus-Christ, qui a fait la paix par le sang qu'il a versé sur la croix, fasse de nous des ambassadeurs fidèles de la réconciliation de Dieu parmi les hommes.
Amen.